Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, extrait choisi de mémoire, cinquième partie. Les trois cabales de l'année 1709. L'expression me manque pour ce que je voudrais faire entendre. La cour, par ses grands changements d'état et de fortune de Vendôme et de Chamillard, était plus que jamais divisée. Parler de cabale, ce serait peut-être trop dire, et le mot propre à ce qui se passait ne se présente pas. Quoique trop fort, je dirais donc cabale, en avertissant qu'il dépasse ce qu'il s'agit de faire entendre, mais qui, sans des périphrases continuelles, ne peut autrement rendre par un seul mot. Trois parties partageaient la cour, qui en embrassaient les principaux personnages, desquels fort peu paraissaient à découvert, et dont quelques-uns avaient encore leurs recoins et leurs réserves particulières. Le très petit nombre n'avait en vue que le bien de l'État, dont la situation chancelante était donnée par tous comme leur seul objet, tandis que la plupart n'en avaient point d'autre que soi-même, chacun suivant ce qu'il se proposait de vague comme de considération d'autorité et en éloignement de puissance. D'autres de place et de fortune à emblée, d'autres plus cachés ou moins considérables, tenaient à quelqu'une des trois et formaient un sous-ordre qui donnait quelquefois le branle aux affaires et qui entretenait cependant la guerre civile des langues. Sous les ailes de Madame de Maintenon se réunissait la première, dont les principaux, encurés de la chute de Chamillard et relevés par celle de Vendôme, qu'ils avaient aussi poussoté tant qu'ils avaient pu, étaient ménagés et ménagés réciproquement Madame la Duchesse de Bourgogne et étaient bien avec Monseigneur. Ils jouissaient aussi de l'opinion publique et du lustre que bouflait leur communiqué. À lui se ralliaient les autres pour s'emparer et pour s'en servir. Harcourt, même sur les bords du Rhin, en était le pilote, voisin et sa femme leurs instruments, qui réciproquement s'appuyaient d'eux. En seconde ligne était le chancelier, qui était dégoûté à l'excès par l'aversion que Madame de Maintenon avait prise sur lui, conséquemment par l'éloignement du roi. Pontchartrain, de loin, à l'appui de la boule, le premier écuyer, vieilli dans les intrigues qui avaient formé l'union d'Harcourt avec le chancelier et qui les rameutait tous. Son cousin Huxelles, le philosophe apparemment cynique, épicurien, faux en tout, rongé de l'ambition la plus noire, dont Monseigneur avait pris la plus grande opinion par la chouin que Béringhen, sa femme et Bignon en avaient coiffé. Le maréchal de Villeroy, qui, du fond de sa disgrâce, n'avait jamais perdu les étriers chez Madame de Maintenon, et que les autres ménageaient par là, et par cet ancien goût du roi qui, par elle, pouvait renaître. Le duc de Villeroy, remué par lui, mais avec d'autres allures, et la Roche-Guillon, qui, ricanant sans rien dire, tendait des panneaux. Et par Blouin et d'autres souterrains savaient tout et avaient toute créance de jeunesse auprès de Monseigneur, et qui, quoique de loin, ne laissaient pas d'avoir influé à la perte de Vendôme et de Chamillard, ayant entière la duchesse de Villeroy, dont le peu d'esprit était compensé par du sens, beaucoup de prudence, un secret impénétrable et la confiance de Madame la duchesse de Bourgogne en beaucoup de choses qu'elle savait tenir de court et haut à la main. D'autre part, sous l'espérance que nourrissaient la naissance, la vertu et les talents de Monseigneur le duc de Bourgogne, tout de ce côté, par affection décidée, était le duc de Beauvilliers, le plus apparent de tous. Le duc de Chevreuse en était l'âme et le combinateur, l'archevêque de Cambrai, du fond de sa disgrâce et de son exil, le pilote, en sous-ordre Torcy et Desmarets, le père Tellier, les jésuites et Saint-Sulpice, d'ailleurs si éloignés des jésuites et réciproquement, Desmarets, ami du maréchal de Villeroy et du maréchal d'Huxelles, et Torcy, bien avec le chancelier, uni à lui sur les matières de Rome, conséquemment contre les jésuites et Saint-Sulpice, et embrassière sur ce recoin d'affaires avec ses cousins de Chevreuse et surtout de Beauvilliers, ce qui mettait entre eux du gauche et souvent des embarras. Ceux-ci, plus unis entre eux au besoin, toujours plus concertés, en occasion continuelle de se voir sans air de se chercher, affranchis des sarbatanes par leur place et voyant tout immédiatement, en état d'amuser les autres par des fantômes et d'un coup de main de rendre fantômes les réalités les mieux amenées, et voir et savoir de source de rompre la mesure à leur gré. Tant était-il vrai de tout ce règne que le ministère donnait tout en affaires quelque confiance que Madame de Maintenon y eût usurpée, qui n'osait questionner ni montrer rien suivre, à qui les choses ne venaient par le roi qu'à bâton rompu, et qui par là avait si grand besoin d'avoir un ministre tout à elle. Ceux-ci n'admirent personne avec eux sans une vraie nécessité, et pour le moment seulement de la nécessité. Ils n'avaient qu'à parer, et comme ils étaient en place, ils n'avaient qu'à se défendre et rien à conquérir. Mais les rieurs n'étaient pas pour eux. Leur dévotion les tenait en brassière, était tournée aisément en ridicule. Le bel air, la mode, l'envie étaient de l'autre côté, avec Lachouin et Madame de Maintenon. Ces deux cabales se tenaient réciproquement en respect. Celle-ci marchait en silence, l'autre comptait avec bruit, et saisissait tous les moyens de nuire à l'autre. Tout le bel air de la cour et des armées était de son côté, que de dégoût et d'impatience du gouvernement grossissait encore, et quantité de gens sages entraînés par la probité de Boufflers et les talents d'Harcourt. Dantin, Madame la Duchesse, Mademoiselle de Lillebonne et sa sœur, leur oncle inséparable d'elle et l'intrinsègue cour de Meudon formaient le troisième parti. Aucun des deux autres ne voulait d'eux, l'un et l'autre les craignaient et s'en défiaient, mais tous les ménageaient à cause de Monseigneur et Madame la Duchesse de Bourgogne elle-même. Dantin et Madame la Duchesse, ce n'étaient qu'un, ils étaient également décriés. Ils étaient pourtant à la tête de ce parti, Dantin par ses privances avec le roi qui augmentait chaque jour, et dont mieux comme du monde il savait se parer, et même davantage solidement, lui et Madame la Duchesse parlaient leur avec Monseigneur. Ce n'était pas que les deux Lorraines n'eussent encore plus sa confiance et celle de Mademoiselle Chouin, au moins plus que les deux autres. Elles avaient de plus un autre avantage, mais alors et longtemps depuis inconnu, dont j'ai parlé d'avance, qui était cette liaison avec Madame de Maintenon, si honteusement mais si solidement fondée, et pour cela même si cachée. Mais elles étaient encore étourdies par les deux coups de foudre qui venaient de tomber sur Vendôme et Chamillard. Boufflers, Harcourt et leurs principaux tenants détestaient l'orgueil du premier et la suprématie de rang et de commandement où ils s'étaient élevés. Chevreuse, Beauvilliers et les leurs, par ces raisons, et plus encore par rapport à Monseigneur le duc de Bourgogne, n'étaient pas moins éloignés de lui. Pas un de ces deux partis n'était donc pas pour se rapprocher de ce troisième, qui était proprement la cabale de Vendôme, encore troublée du coup, ni les derniers de plus de Lantin, qui, dans la folle espérance d'avoir la part principale à la dépouille de Chamillard, avait travaillé si fortement à sa ruine. Pour être mieux entendu, donnons un nom aux choses et nommons ces trois parties la cabale des seigneurs, qui est le nom qui lui fut donné alors, celle des ministres et celle de Meudon. Cette dernière avait été plus touchée de la fâcheuse épreuve de ses forces que de la chute de Vendôme. Elle ne le portait que pour perdre Monseigneur le duc de Bourgogne par les raisons qui ont été expliquées. Ce grand coup, à la fin manqué à demi, Vendôme de moins les mettait plus au large auprès de Monseigneur et ramassait tout plus à eux. Je dis manqué à demi car il avait pleinement porté par leurs artifices auprès de Monseigneur, qui ne s'en est jamais revenu pour Monseigneur le duc de Bourgogne et qui le lui fit sentir le reste de sa vie même grossièrement. À l'égard de Chamillard, ce coup manqué auprès du roi, on a vu par le trait que lui fit par deux fois Mademoiselle de Lillebonne auprès de Mademoiselle Chouin, combien peu ils s'en soucièrent dès qu'ils le virent sur le penchant. Elle et sa sœur comptèrent bien sur le successeur par elle-même, à cause de Monseigneur, encore plus quand elles virent voisins l'être par leur secret rapport avec Madame de Maintenon. Pour Vaudémont, outre qu'il n'était qu'un avec ses nièces, et conduit qu'il était son retour des usurpations de rang qu'il avait essayées, établi d'ailleurs comme il était, tout cela lui importait assez peu, et sa considération, déjà tombée, demeurait sans souffrir une plus grande diminution. Monsieur Dumaine, régnant dans le cœur du roi et de Madame de Maintenon, ménageait tout, n'était à aucun qu'à soi-même, se moquait de beaucoup, nuisait à tous tant qu'il pouvait, et tous aussi le craignaient et le connaissaient. Voisin, tout à Madame de Maintenon, lui valait mieux que Chamillard, qui s'était livré à lui, et Vendôme ayant péri dans son entreprise des Titans, l'entreprise échouée, Dumaine se trouvait soulagé d'un audacieux qui n'aurait pas voulu être inférieur à ses enfants et dont la parité réelle était un titre embarrassant. Monsieur le duc laissait faire, embourbé qu'il était dans son humeur, qui éloignait tout le monde de lui comme d'une mine toujours prête à sauter dans ses affaires de la mort de Monsieur le Prince, dans ses plaisirs obscurs et dans sa santé qui commençait à devenir mauvaise. Le comte de Toulouse, non plus que Monsieur le duc de Berry, ne prenait part à rien. Monsieur le duc d'Orléans n'était pas en volonté, ni, comme on le verra bientôt, en état d'entrer en quoi que ce soit, et Monseigneur le duc de Bourgogne, enfoncé dans la prière et dans le travail de son cabinet, ignorait ce qui se passait sur la terre, suivait les impressions douces et mesurées des ducs de Beauvilliers et de Chevreuse, n'avait figuré en rien dans les disgrâces de Vendôme et de Chamillard, et s'était contenté de les offrir à Dieu, comme il avait fait les tribulations qu'il lui avait causées. À l'égard de Madame la Duchesse de Bourgogne, on a vu qu'elle procura à l'une et qu'elle ne s'épargna pas pour l'autre. Cela, joint à ce qu'elle était à Madame de Maintenon et Madame de Maintenon à elle, la jetait naturellement du côté de la cabale des seigneurs, avec le goût qu'Harcourt lui avait donné pour lui, l'estime qu'elle ne pouvait refuser à Boufflers et son amitié pour la Duchesse de Villeroy. Mais éloignée à l'excès des ducs de Beauvilliers et de Chevreuse, qu'elle craignait en cent façons auprès de Monseigneur le duc de Bourgogne, elle s'en était fort rapprochée à l'occasion des choses de Flandre, et comme elles avaient duré longtemps, ses préventions s'étaient fort amorties par le commerce qu'elle avait eu avec eux par elle-même et par Madame de Lévis, fort bien avec elle, une de ces dames du palais, qui avait tout l'esprit possible et qui avait saisi ses temps favorables à son père et à son oncle, de manière qu'elle ne leur était pas opposée et qu'elle nageait entre les deux cabales. Pour celle de Meudon, la même de Vendôme, elle ne gardait que les mesures dont elle ne pouvait se dispenser sagement à cause de Monseigneur et de la qualité de bâtardise du roi de Madame la Duchesse, avec laquelle on a vu qu'indépendamment du reste, elle était personnellement mal. Le seul Dantin en fut excepté par l'usage qu'elle en avait tiré sur la Flandre et qu'elle s'en promettait au besoin par ses privances avec le roi. Tallard, enragé de n'être de rien, parce qu'on ne se fiait à lui d'aucun côté, ne tenait qu'à Torcy, qu'il avait toujours ménagé, et au maréchal de Villeroy, de toute sa vie son parent et son protecteur, sous la disgrâce duquel il gémissait. Quoique livré au rang, si un avec Mademoiselle de Lisbonne et sa sœur, cela n'avait point pris avec lui, et il pétillait de se fourrer de quelque chose sans y pouvoir réussir. Les ministres avaient moins d'éloignement pour lui que les deux autres partis, mais cela n'allait pas jusqu'à l'admettre. Il mourait de jalousie contre ceux qui lui étaient préférés dans le commandement des armées. Il pâmait d'envie du brillant maréchal de Boufflers, souple toutefois avec eux, mais hors de toute portée. Villars ne doutait ni de soi, ni du roi, ni de Madame de Maintenon. Le bonheur infatigable pour lui et l'expérience lui en répondaient. Il était content, incapable de suite et de vue, hors les purement personnels. Il n'était de rien et ne souciait pas d'en être et aucun des partis ne le désirait. Berwick ménageait et était ménagé des deux premiers. Les affaires d'Angleterre l'avaient lié avec Torcy, la piété et la dernière campagne de Flandre avec les ducs de Chevreuse et de Beauvilliers. Il était fort bien d'ancienneté avec Dantin et c'était le seul de la cabane de Meudon avec qui il fut de la sorte. Le maréchal de Villeroy était son ennemi et son protecteur, et il était ami d'Harcourt, qu'il avait toujours cultivé. Tessé, ami de Pontchartrain, était suspect au seigneur et au ministre. Les personnages qu'il avait faits ne lui avaient acquis l'estime ni la confiance de personne. Sa conduite à l'égard de Catina l'avait perdu dans l'esprit de tous les honnêtes gens et empêcha même les autres de se lier avec lui. Et sa bassesse à l'égard de Vaudémon et de Vendôme, de La Feuillade, avait achevé de l'anéantir. Son ambassade de Rome ne le releva pas, ni ses lettres ridicules au pape qu'il n'eut pas honte de publier partout. Il était donc souffert dans la cabale de Meudon, mais rien au-delà, et rejeté des deux autres. Noailles, riche en calebasses de toutes sortes, nageait partout, tâtant tout, reçu honnêtement partout à cause de sa tante et de son langage, mais admis à rien encore, en jeune homme qu'on ne connaissait pas assez et dont le grand vol et les nombreux crampons tenaient en égale attention et défiance. Ces cabales, au reste, avaient leur subdivision. Dans celle des seigneurs, Harcourt avait ses réserves avec tous les autres, quoique cheminant avec eux, et souvent par eux, et ne faisait comparaison avec aucun, pour me servir de ce terme vulgaire, excepté le chancelier, mais qui n'était bon que pour le conseil dans la situation où il se trouvait avec le roi et madame de Maintenon, qui l'excluait de pouvoir être acteur en rien, sinon quelquefois au conseil où il était sans milieu, nul ou emportant la pièce avec feu, adresse et subtilité, qui était son talent naturel, ce qu'il ne faisait qu'aux grandes occasions pour tomber sur le duc de Beauvilliers sans l'attaquer directement, mais embarrasser un avis et tâcher de lui donner un air ridicule. Le maréchal de Villeroy, le moins ardent de tous par la futilité de son esprit, son incapacité naturelle et la chute de Vendôme et de Chamillard, ses deux objets de haine, était de longue main ami particulier de Desmarets, par ses anciennes liaisons avec Béchameil, son beau-père, fort attaché et protégé du chevalier de Lorraine et des Fiats. Malgré sa disgrâce, on a vu qu'il avait conservé l'amitié et souvent la confiance de madame de Maintenon, une relation assez fréquente avec elle, la privance de longues conversations avec elle toutes les fois qu'il allait à Versailles, ce qui n'était pas fréquent, beaucoup plus souvent des lettres de l'un à l'autre et des mémoires sur les choses de Flandre qu'elle lui demandait et qui étaient toujours bien reçues. Leur paquet passait le plus ordinairement par Desmarets, rarement par la duchesse de Villeroy. Il était assez bien avec Torcy et en quelque mesure avec Beauvilliers, qui tous deux n'en faisaient nul compte et tous deux fort haïs du duc de La Roche-Guyon et du duc de Villeroy autant qu'il en était capable, et cela comme en bien d'autres points divisé d'avec son père, quoique très unis sur le principal et mieux ensemble depuis que leurs différents genres de vie, depuis que la disgrâce du père et la charge du fils les avaient séparés de lieu. Chevreuse et Beauvilliers, sans secret l'un pour l'autre, étaient réservés avec les leurs, et bien que cousin Germain de Torcy, un fumet de jansénisme, les écartait de lui fort au-delà du but. Dantin et madame la duchesse, entièrement unis de vue, de besoins réciproques, de vices et de lieux, se défiaient fort des deux Lorraines, avec des confidences néanmoins et l'extérieur le plus intime que le dessein commun soutenait pendant la vie du roi, en attendant qu'ils s'entr'égorgeassent tous après pour la possession unique de Monseigneur devenu roi. Cette cabale frayait avec celle des seigneurs, mais elle en était découverte et intérieurement haïe et crainte, comme ayant été celle de Vendôme. Pour celle des ministres, rien de plus opposé, quoique Torcy et madame la duchesse, et par conséquent Dantin, eussent des ménagements réciproques par la bousole sœur de Torcy, amie intime de tous les temps et de toutes les façons de madame la duchesse, et qui, avec une figure hideuse, était charmante dans le commerce avec de l'esprit comme dix démons. Telle était la face intérieure de la cour dans ce temps orageux. Les Argentones. Tandis que je mettais les fers au feu pour moi-même, je ne perdais point de vue la triste situation de M. le duc d'Orléans. Il était allé de Marly à Paris. Aussi, je ne l'avais point vu, et à Paris, je ne le voyais jamais. Frappé de la profondeur de sa chute, il ne se présenta à moi qu'un seul moyen de le relever, terrible à la vérité et même dangereux, à lui proposer vainement, très difficile à espérer de lui faire prendre, mais qui, tel qu'il était, ne fut pas capable de m'épouvanter. C'était de le séparer d'avec sa maîtresse pour ne la revoir jamais. J'en saisis tout le poids et le péril, mais j'en sentis tellement la nécessité et le fruit que je résolus de l'entreprendre. Mais je n'osais me charger seul d'une entreprise si pleine d'écueils. Je jetai les yeux sur Bézon, le seul homme qui fût en état et qui pût être en volonté de m'y aider, encore qu'il fût à peine de ma connaissance. Les quatre premiers jours de l'année 1710 se passèrent en choses qui méritent une espèce de journal, parce que, outre la part que j'y eus, elles servirent de fondement à la suite d'événements considérables. Le premier jour de cette année, qui fut un mercredi, rappela M. le duc d'Orléans pour les cérémonies et les visites de cette année. Je le vis après les vêpres du roi. Il m'emmena aussitôt dans son arrière-cabinet obscur sur la galerie, où la conversation fut d'abord coupée et tumultueuse, comme il arrive d'ordinaire après une longue absence. Après quoi, je lui demandai de ses nouvelles avec le roi, monseigneur et les personnes royales. Il me répondit, assez en l'air, « Ni bien ni mal ». Et sur ce que je lui répliquais que ce n'était pas assez, il me dit qu'il avait donné à Saint-Cloud une fête à l'électeur de Bavière, où il y avait eu quantité de dames, entre autres Madame d'Arcot, mère du chevalier de Bavière, où il n'avait pas cru, mal faire, de faire trouver Madame d'Argenton. que le roi, néanmoins, l'avait trouvé mauvais, et le lui avait dit, après quelques jours de bouderie, que cela s'était passé ensuite et qu'il en était avec lui à l'ordinaire. Je lui demandai ce qu'il entendait par cette expression « à l'ordinaire » qui ne m'expliquait rien au bout de 4 mois d'absence, sur quoi il se mit à battre la campagne comme un homme qui craint d'approfondir. Je le pressai, et comme il vit que j'en savais davantage, il me demanda ce qu'on m'en avait dit. Je ne crus pas devoir lui taire ce que j'en avais appris. Je lui dis franchement que j'étais bien informé qu'il était fort mal avec le roi et si mal qu'il était difficile d'être pis, que le roi était tout trait contre lui de tout point, que monseigneur l'était infiniment davantage et le montrait aussi avec beaucoup moins de ménagement, qu'à leur exemple le gros du monde s'éloignait de lui et que j'avais appris sur tout cela tant de fâcheux détails que je lui avouais qu'on était au désespoir. Il m'écouta attentivement, et après avoir laissé quelque temps la parole tomber, il convint de tout ce que je venais de lui dire. Il ajouta qu'il sentait bien que c'était là les effets de l'impression de son affaire d'Espagne, qui, nonobstant sa simplicité, avait été empoisonnée par des fripons, que le malheur était qu'il n'y pouvait que faire, et qu'il fallait bien que le temps raccommodât tout. Je le regardai avec fermeté et lui répondis qu'il y avait des choses que le temps effaçait et d'autres que le temps imprimait de plus en plus, que son affaire d'Espagne était malheureusement de cette dernière sorte par sa nature et par l'expérience qui lui montrait très sensiblement qu'il était plus éloigné du roi et de monseigneur qu'au premier jour de la fin publique de cette affaire, qu'il n'avait pas besoin de réflexion pour s'en apercevoir et que cette triste vérité ne pouvait être contestée. À ce propos, il rentra fort en lui-même et me l'avoua. Il convint de son embarras avec eux et de leur peine avec lui, qui redoublait la sienne et qui le retirait de plus en plus d'auprès d'eux. J'en pris l'occasion de tirer de lui le même aveu sur l'abandon si entier de tout le monde, qui, après l'autre, ne lui fut pas difficile. Il s'en plaignit à moi avec assez d'amertume, et sur ce qu'il aimait là quelque aigreur, je lui représentai qu'en un temps aussi despotique que ce règne, toute la cour, et par elle tout le monde, réglait ses démarches sur les mouvements qu'on ne cessait de chercher dans le roi, premier mobile de toutes choses, que souvent c'était bassesse, ordinairement flatterie, mais qu'ici c'était juste terreur, puisque chacun n'était que trop informé de la cause des manières du roi à son égard, si différentes maintenant de ce qu'elles avaient toujours été. Et que, quelque dur, quelque étrange, quelque inouï que fût la solitude qu'il éprouvait, il ne pouvait, avec raison, le trouver mauvais de personne, ni en espérer la fin que par le changement du roi à son égard, qui entraînerait, au moins pour l'extérieur, celui de monseigneur et celui de tout le monde. Cette vive repartie jeta le prince dans une consternation qui m'émut et qui m'encouragea. J'étais entré chez lui en résolution de le mettre en voie de s'ouvrir avec moi pour le sonder et lui jeter de loin des propos qu'il put entendre, mais non dans le destin de rompre la glace. En ce moment, je me dépouillai de toute crainte et de toute considération précédente et je me déterminai à saisir l'occasion, si elle se présentait à moi de bonne grâce, comme je prévoyais qu'il pouvait arriver et comme en effet elle se présenta peu de moments après. Monsieur le duc d'Orléans, pénétré de la peinture que je venais de lui faire de sa situation et qu'il ne pouvait alors se dissimuler à lui-même, se leva après un profond silence de quelque temps et se mit à faire quelques tours de chambre. Je me levai aussi et appuyai la muraille, je l'examinai attentivement. Lorsque, levant la tête et soupirant, il me demanda « Que faire donc ?» comme un homme qui, après avoir profondément pensé, croit répondre sur le champ. Alors, voyant l'occasion si belle et si naturelle, je la saisis sans balancer. « Que faire ? » répondis-je. « Que faire ?» d'un ton ferme et significatif. « Je le sais bien, mais je ne vous le dirai jamais, et c'est pourtant l'unique chose à faire. « Ah, je vous entends bien, » répliqua-t-il, comme frappé de la foudre et redoublant. « Je vous entends bien. » Il alla se jeter sur un siège à l'autre bout du cabinet. Sur l'instant qu'il m'avait en effet entendu, étourdi moi-même du grand coup que je venais de frapper, je me retournai un peu vers la muraille pour m'en remettre à moi-même et pour lui épargner l'embarras d'être regardé dans ses premiers moments. Le silence fut long. Je l'entendais se remuer impétueusement sur sa chaise et j'attendais en peine par où la conversation reprendrait. Cependant, les soupirs se mêlèrent à l'agitation du corps, et jugeant de là que les réflexions cuisantes avaient plus de part à toute cette agitation qu'une colère sèche, je me tournai vers lui, et les yeux baissés, avec embarras, je rompis le silence qui devenait trop long, et lui dis, pour presser le combat, dont je me doutais en lui, que ce qui m'était échappé était l'effet d'un concert pris entre Beson et moi, et que je croyais être les deux hommes qui lui fussent le plus étroitement attachés, et qui, par ceci même, lui en donnaient une preuve bien signalée. Que pénétré de ce que j'avais appris en sortant de mon carrosse venant de La Ferté et de ce qui m'avait été répété de tous lieux les plus sûrs et les plus considérables où je pouvais atteindre, je m'étais tourné de toutes parts pour chercher une sortie à son état funeste et enseveli, que je n'en avais pas pu découvrir d'autre, qu'accablé de sa difficulté, je m'étais ouvert de ma pensée au maréchal de Beson qu'il avait ardemment embrassé comme une ressource assurée mais unique. Que nous avions résolu de la lui venir proposer ensemble et pris rendez-vous chez moi à Paris pour convenir de tout, mais que la difficulté de l'entreprise nous ayant effrayés l'un et l'autre par les réflexions que nous y avions faites dans l'entre-deux, nous étions demeurés d'accord que nous chercherions séparément à le faire parler, à profiter de son ouverture pour aller aussi avant que nous le jugerions convenable sur le champ, et que si l'occasion se présentait, elle serait saisie, et que celui des deux à qui cela arriverait décèlerait le complot et son compagnon. Je me tus après ce court récit. Il n'augmenta pas l'agitation corporelle, mais les soupirs, et prolongea son silence. Je me retournai un peu pour lui laisser plus de liberté, et de temps en temps je disais en monosyllabes, comme m'encourageant moi-même, « Il n'y a que ça à faire, c'est l'unique porte », et d'autres mots semblables. Enfin, après longtemps, M. le duc d'Orléans se leva, vint à moi, et avec une amertume qui ne se peut rendre, « Que me proposez-vous là ?» me dit-il. « Votre grandeur, lui dis-je, est le seul moyen de vous remettre comme vous devez être, et mieux que vous n'avez jamais été. » Quelques moments après, j'ajoutai, « Oh, que je voudrais que Beson fût ici !» Il fut quelque temps sans répondre, puis me dit, mais d'un ton fort concentré en lui-même, « Mais il est ici. Quoi dis-je, à Versailles ?»« Oui, me dit-il, il me semble que je l'ai vu ce matin chez le roi. »« Eh bien, monsieur, repartis-je, voulez-vous l'envoyer chercher ?» Il fut un moment sans répondre. Je le pressai. Il y consentit. Aussitôt je sortis, et je dis à ses gens qu'ils demandaient le maréchal de Beson. Dans ce moment, Beson revint. Nous entrâmes dans l'arrière-cabinet et nous nous assîmes. Alors je pris la parole et l'adressant au maréchal, je lui fis une seconde fois le récit de ce qui s'était passé la veille, non pour l'instruire de ce qu'il savait déjà, mais pour entrer en matière et l'exposer ainsi au tiers sans avoir l'air de la rebattre à M. le duc d'Orléans et à qui pourtant je voulais de nouveau faire entendre. Beson regarda le prince, lui demanda ce qui lui semblait d'un ami tel que je montrais l'être, lui dit la résolution qu'à mon instigation, lui et moi avions prise ensemble, puis que nous avions molli, enfin, qu'il louait et admirait mon courage de l'avoir exécuté. Il ajouta ensuite un raisonnement court, mais juste et fort, pour le déterminer, et se tut après pour le laisser parler. Les propos de M. le duc d'Orléans ne furent rien de suivi, mais les élans d'un homme qui souffre une violence étrange et qui s'en fait même pour la souffrir. Après l'avoir laissé quelque temps rêver, soupirer, se plaindre, je lui dis que je souffrais moi-même autant que lui d'avoir à l'attaquer sur un chapitre aussi sensible, que de cela même il devait juger à quel point de nécessité, à tous égards indispensable, il se trouvait réduit à se vaincre. Que j'étais parti pour ma campagne, très en peine de la situation à laquelle je le laissais, et à la cour et dans le monde, mais qu'à mon retour, j'avais été navré de douleur d'apprendre quel progrès en mal ces 4 mois avaient produit, qu'il n'était plus question de se flatter, qu'il fallait qu'il considérât son état devenu intolérable, qu'il en fallait sortir par quelque voie que ce fût, et que toute voie lui étant fermée, hors celle que je lui avais présentée, qu'elle était dure, cruelle, mais unique, qu'après tout, il fallait bien qu'il se séparât un jour de celle qui le tenait sous son joug, qu'un engagement si long, si éclatant, l'avait précipité dans un abîme sans fond, que le jour de s'en arracher était venu, qu'il ne tenait qu'à lui de se faire de cet abîme un degré d'honneur, de faveur et de gloire qui le porterait en un instant plus haut qu'il n'avait jamais été. Le maréchal répéta ces dernières paroles en les assurant et y applaudissant, et nous demeurâmes ainsi quelque temps, nous renvoyant la balle l'un à l'autre pour n'irriter pas en pressant trop fort et donner lieu à digérer ce qui avait été dit et ce que nous continuions de pousser en nous parlant ainsi l'un à l'autre, mais aussi sans nous parler trop longtemps. Après assez de silence, M. le duc d'Orléans nous demanda, mais en me regardant, comment nous l'entendions et par où nous prétendions le porter si haut, par une démarche qu'il comprenait assez, qui pourrait plaire au roi jusqu'à un certain point, mais qui, n'ayant rien de commun avec les choses qu'il avait jetées dans une disgrâce sensible, puisque, depuis cet engagement et avant ces autres choses, il s'était longtemps soutenu à merveille avec lui, et une démarche encore qui ne faisait rien à personne. Comment donc nous prétendions le tirer de là, de tout ce qu'il avait accablé, et du côté de la cour, et par rapport au monde ? Comme j'en avais ouvert le premier propos et que M. le duc d'Orléans semblait m'adresser sa question plus particulièrement qu'au maréchal, je crus que c'était à moi de répondre et à mettre cet argument dans tout son jour, de la force duquel je sentis bien par la question même que je pourrais tirer un grand secours. Je pris donc la parole et je dis qu'en quittant une vie qui scandalisait depuis si longtemps ceux même qui, peu attentifs à leur conscience, ne l'étaient qu'à l'honneur du monde, il se déchargerait du blâme qu'il avait encouru en l'amenant et de tout celui encore qui lui avait été imputé pendant sa durée. Qu'une violente passion ne réfléchit à rien et se laisse entraîner à tout ce qui est la suite. Que ses curiosités sur l'avenir, qu'il avait cru avoir peu frappées et être depuis longtemps effacées, s'étaient renouvelées et grossies depuis quelque temps, à tel point qu'elles étaient considérées comme un crime du premier ordre, comme une impiété détestable, et par les yeux les plus favorables comme une faiblesse qui faisait un tort extrême à tout ce qu'on avait pensé de lui de grand et de solide. Qu'il était considéré comme un homme tourmenté d'une soif ardente de régner, né à la vérité de son ambition, mais inspiré par les choses qui lui avaient été montrées dans les exercices de ses curiosités, reçu avec terreur des uns, avec dédain des autres, mais de tous comme ce qui lui avait fait monter dans l'esprit ces superbes pensées qui ne pouvaient s'accorder avec l'homme sage, moins encore avec le bon sujet. Que de là se tiraient les sources de son affaire d'Espagne, avec les raisonnements et les conséquences les plus sinistres, et bien d'autres encore que je ne pouvais prendre sur moi de lui déployer. Il m'empressa, c'est tout ce que je voulais. Après m'en être défendu assez longtemps pour exciter sa curiosité davantage et pour le préparer à entendre d'affreuses énormités, je lui dis que, puisqu'il me le commandait, et puisqu'il était encore en tel état qu'il était besoin qu'il sût tout, et ce que personne n'osait lui dire, qu'il apprit donc qu'il s'était débité et trop reçu par les fripons et par ceux qui, trop éloignés, n'avaient aucune connaissance de lui, qu'il avait un concert avec la cour de Vienne pour épouser la reine Douairière d'Espagne, dont le grand amas d'argent et de pierreries lui servirait à se frayer un chemin au trône d'Espagne sans trop fouler les alliés, que pour y parvenir il répudierait sa femme, que par l'autorité de l'empereur tout-puissant à Rome, par la terreur qu'il avait imprimée au pape, il ferait casser son mariage comme étant honteux et fait par oppression violente, conséquemment déclarer ses enfants bâtards, que n'en pouvant point espérer de la reine Douairière d'Espagne, il attendrait sa mort du bénéfice du temps et de l'âge pour épouser Madame d'Argenton, à qui les génies avaient promis une couronne. Que, pour ne lui rien sceller, il était doublement heureux d'avoir conservé Madame la Duchesse d'Orléans à travers les infirmités et les dangers de la grossesse et de la couche dont elle venait de se tirer, parce que, outre sa conservation, le recouvrement de sa santé faisait honteusement taire les scélérats qui n'avaient pas craint de répandre qu'elle était empoisonnée, qu'il n'était pas fils de monsieur pour rien et qu'il allait épouser sa maîtresse. À ce terrible récit, Monsieur le duc d'Orléans fut saisi d'une horreur qu'on ne peut décrire, et en même temps d'une douleur qui ne peut s'exprimer, d'être déchiré d'une manière si âprement et singulièrement cruelle. Il s'écria plusieurs fois, et moi qui voulais avaler ce calice tout d'un trait sans être obligé d'y replonger mes lèvres, j'avais toujours étouffé sa voix dans sa naissance pour avoir le temps de tout dire de suite. Quand j'eus fini, je me tus, et M. le duc d'Orléans aussi, qui était tout hors de lui-même. Beson, éperdu de ce qu'il venait d'entendre, avait les yeux fichés sur le parquet, qu'il m'a dit depuis qu'il avait cru s'enfoncer et n'osait les remuer d'épouvante. Ce n'était pas qu'il ignorât rien de ce que je venais de dire, dont nous avions raisonné ensemble, et dont lui-même m'avait appris le plus horrible, mais de me l'entendre exposer nettement à ce prince, il ne savait plus où il en était. Après quelques moments de silence, M. le duc d'Orléans le rompit par des plaintes les plus amères de ce comble d'iniquité de gens capables d'imaginer de tels forfaits, de desseins également insensés et barbares pour oser l'en accuser, et de la malice ainsi, ou de la basse stupidité, de ceux qui prêtaient l'oreille à ces horreurs et leur langue pour les répandre. Je crus devoir laisser quelques moments à de si justes plaintes et au maréchal, éperdu d'ouïr faire de tels récits en face, de reprendre un peu ses esprits. Revenu un peu à lui, il mêla ses plaintes, mais il confirma, en peu de mots, la publicité de ces terribles bruits. Enfin, je repris mon discours, dont je n'avais fait qu'une partie. Je dis à M. le duc d'Orléans que, maintenant qu'il voyait à découvert les causes de l'abandon du monde et de l'éloignement prodigieux du roi pour lui et de sa famille, il apercevait du même coup la connexité de la rupture de cet attachement funeste avec le rétablissement de tout lui-même, que, rompant des liens qui, par leur durée et par les effets qu'on leur attribuait, n'étaient plus regardés qu'avec une horreur et une indignation générale, et qui seraient au moins toujours susceptibles de toutes les noirceurs que les scélérats tâcheraient d'en tirer, ils feraient tomber les effets avec leur cause. Et, libre de cet engagement, ils deviendraient nets de tout crime et de tout soupçon. Je fis encore en cet endroit une pause pour faire entrer, peu à peu, et le moins qu'il pourrait à dégoût, un raisonnement si fâcheux par sa vérité et sa force, et ne révoltait pas en accablant trop coup sur coup. Le maréchal de Beson, qui jusque-là n'avait pas dit grand-chose, se mit à parler davantage, et n'ayant qu'à suivre un chemin que j'avais ouvert à force de bras, il le battit à son tour avec force et justesse. Monsieur le duc d'Orléans, outré et abattu de plus d'une douleur bien vive, ne disait rien, et c'était beaucoup qu'il écouta. Nous parlions, le maréchal et moi, comme l'un à l'autre, louant chacun quelques mots que son compagnon avait dit pour l'inculquer par la plus forte, mais d'une façon plus douce, que si nous nous fussions toujours adressés au prince même, laissant assez tomber la conversation pour fatiguer moins celui pour qui seul elle se faisait. Alors, monsieur le duc d'Orléans, comme sortant d'un profond sommeil par une plainte amère, s'écria « Mais comment m'y résoudre et comment lui dirai-je » Ce mot, échappé à l'effort de la persuasion, confirma mon espérance. Je le saisis avidement et je répondis d'un ton ferme qu'il avait trop bon esprit pour ne pas sentir à quel point cette résolution était nécessaire à former promptement et à exécuter de même. Que s'il n'était question que de la manière, chose que je n'avais osé lui entamer, mais qui n'était pas moins principale à agiter pour sa grandeur et sa gloire, je le suppliais d'avoir encore la patience de m'entendre là-dessus. Que mon sentiment était, et que je croyais être aussi celui de Beson, qu'il était également inutile et dangereux qu'il rompît avec Madame d'Argenton si elle restait dans Paris. Dangereux en ce qu'il ne se tiendrait jamais de la revoir, et que la revoir et renouer avec elle serait même chose. Inutile en ce que, ne la revoyant même pas, quoique supposition impossible, il le serait pour le moins autant d'en persuader le roi et le monde, par qui tout son effort ne lui servirait à rien. À ces mots, il me demanda avec impétuosité ce que je prétendais donc qu'il fît, et de quel front s'empêcher de l'avoir, au moins pour rompre, puisque s'il rompait, ce ne serait ni par dégoût, ni par mécontentement d'elle. Je répondis avec un air de froide tranquillité que s'il était résolu à la revoir comme ce put être, tout ce combat était superflu. Et le maréchal, prenant en même temps la parole, l'amena bien, s'échauffa et conclut que la revoir serait un bail nouveau, plus certain, plus fort, plus durable que le premier. Qu'au nom de Dieu, il ne se laissa pas succomber à cette faiblesse dont il se repentirait à jamais. Que si déterminément il la voulait revoir, il quitta toute pensée de rompre avec elle, ou que s'il était assez généreux pour ne se surmonter en ce point, qu'il ne se présentât pas à une défaite assurée, et qu'il se gardât sur toute chose de l'aller voir et même de lui écrire. J'appuyai cet avis si salutaire tout du mieux que je pus, et sur les difficultés et les raisons qu'il chercha à opposer, j'ajoutai que cette manière était même celle de toute la moins désobligeante, puisqu'elle témoignait un amour si redoutable qu'on osait s'exposer à voir celle qui l'allumait quand on avait résolu de l'éteindre. De là, je repris mon discours, et je lui dis que, n'y ayant que danger de toutes parts de laisser Madame d'Argenton à Paris en rompant avec elle, et, quelque grand qu'il fût, n'ayant pas le pouvoir de l'en bannir, ni quand il l'aurait, grâce à l'exercice sur elle, cela même lui enseignait la route qu'il devait tenir, et lui fournissait en même temps tout moyen d'un rétablissement complet. Qu'il fallait qu'il allât trouver le roi, qu'il lui dit qu'il venait à lui comme à un asile contre soi-même, qu'une passion démesurée à laquelle il s'était abandonné tout entier lui avait trop déplu, et par son propre dérèglement et par toutes les suites funestes et les malheurs qui en avaient été les fruits, qu'il ne pouvait plus vivre ainsi dans sa disgrâce, si coupable à ses propres yeux, qu'il se jetait donc entre ses bras, avec son ancienne confiance et ses anciennes bontés, pour qu'il lui pardonnât tous les déplaisirs que ce désordre lui avait causés, et pour qu'il l'aidât dans sa faiblesse à se tirer d'un engagement qu'il sentait qu'il ne pouvait rompre et qu'il suppliait de briser. Qu'il lui demandait de profiter de cet instant qu'une lueur de raison et de devoir l'avait saisi, et de faire ordonner à Madame d'Argenton de sortir de Paris, afin que, secouru par l'absence, il pût soutenir sa résolution et le pas qu'il faisait pour sortir des abîmes où l'amour l'avait précipité. J'ajoutai que, parlant de la sorte à un oncle qu'il avait tendrement aimé et qui lui en avait donné toutes sortes de marques, à un beau-père outré du malheur de sa fille, dont par là il verrait la fin, à un roi aisément pris par la confiance, un homme d'expérience trop funeste de la puissance et des fruits de l'amour passionné, il le toucherait tellement par toutes ces choses à la fois qu'en un instant il ferait de lui le père de l'enfant prodigue. Que je savais d'ailleurs qu'une des choses du monde qui avait le plus outré le roi contre lui dans l'affaire d'Espagne était la tendre amitié qu'il s'était toujours senti pour lui et qu'il avait espéré réciproque par un air de liberté avec lui, qu'il avait remarqué et senti infiniment plus que dans ses enfants et qui lui avait extrêmement plu. Que le dépit de se voir trompé dans une pensée qui lui était douce l'avait horriblement piqué contre lui, qu'il s'en était, une fois entre autres, expliqué ainsi à Madame de Maintenon, en entrant chez elle plein de la chose, les lèvres lui tremblant de colère, en lui faisant ses plaintes et en lui parlant de cela comme d'un malheur extrêmement sensible. Qu'un recours au roi, tendre, touchant, confiant, avouant tout sans rien dire, et cachant sous le voile de son embarras tout ce qu'il n'était ni bon ni à propos d'expliquer, aurait la force de faire renaître dans le roi ses premiers sentiments pour lui, que cette conduite lui ferait croire avoir été bien fondée par une satisfaction d'autant plus utile qu'il ne trouverait affranchi du reproche qu'il s'était fait à lui-même d'avoir été la dupe d'une amitié qui n'était pas, et ne trouverait flatté en sa partie sensible de voir son neveu se jeter entre ses bras pour le délivrer d'un lien qu'il n'avait pas la force de briser soi-même, tandis qu'il se souviendrait, avec ce retour satisfaisant d'amour-propre, que ce sacrifice se serait fait uniquement à lui. Que de ces favorables dispositions naîtrait aisément en lui l'opinion que toutes les fautes, les plus graves imputations, les curiosités condamnables et suspectes, que l'affaire d'Espagne était les suites, les fautes, les effets d'une passion si forte et d'un si violent amour, dont toute la faiblesse lui était montrée par la manière de s'en arracher qui le flatterait encore. Monsieur le duc d'Orléans n'eut pas la patience d'en entendre davantage sans m'interrompre. « Quoi, me dit-il, vous voulez que je la charge de toute l'iniquité qu'on m'a imputée et que j'en sorte à ses dépens ? Et n'est-ce pas assez de rompre, si je m'y résous, sans la livrer encore, outre que ce serait injustement sur les affaires d'Espagne auxquelles elle n'a eu aucune part ? Et pardonnez-moi si je vous dis que je m'étonne que ce soit vous qui m'ouvriez une telle porte. » « L'amour vous aveugle, monsieur, lui répondis-je, et vous fournit une délicatesse que je vous avoue que je ne crains pas de combattre, pourvu que, sur un point qui vous est si capital, vous veuillez bien m'écouter avec défiance de vous-même. Vous sentez que je veux faire de Madame d'Argenson le bouc émissaire de l'ancienne loi, et vous vous en hérissez comme d'une proposition qui vous flétrirait. Je ne me défends pas que ce soit mon dessein. Monsieur le maréchal sera notre juge. » Monsieur le duc d'Orléans s'écria encore et pressa le maréchal de parler, qui, après plusieurs circuits pour ne rien dire, prononça enfin que cela lui répugnait. Je ne me rendis point et voulus me faire entendre, et je dis que ce qui, en aucun cas possible ne devait être fait, c'était de tirer son avantage aux dépens d'un autre, beaucoup moins par un mensonge, infiniment pis quand cet autre avait été dans notre liaison. Mais qu'ici, rien de tout cela, que la vérité se conservait entière des deux côtés, que le dommage était nul de l'un, l'avantage infini de l'autre, et que, les choses étant exactement ainsi, je n'y voyais nulle matière de scrupule d'honneur, de probité, ni de délicatesse. Ils convinrent tous deux du principe et m'en laissèrent faire l'application. Continuant donc, je demandai au prince s'il pouvait disconvenir que son amour ne l'eût pas entièrement retiré de tous les devoirs de famille et de tous ceux encore de sujets de roi si principal et si bien traité pour le jeter dans une vie obscure, retiré avec un tas de petites gens parmi des amusements indignes de son rang et de son esprit, dans des profusions qui avaient attaqué les fondements solides de ce que dans les particuliers on appelle leur fortune. Je lui demandai s'il pouvait nier que ce ne fût par ce même amour qu'il avait replongé plus avant et plus continuellement que jamais dans ses curiosités auparavant bannies de chez lui et si sinistrement interprétées, et si ce qui s'en était justement et véritablement débité, jusque par lui-même, n'avait pas donné lieu aux plus fâcheuses augmentations et aux plus funestes interprétations qui s'en étaient faites. Il m'avoua nettement ces choses, et sur cet aveu, je pris droit de conclure qu'il était donc vrai à la lettre que son amour l'avait jeté dans les plus grands dérèglements, dans les suites funestes et dans les désordres, dans les malheurs, dans les abîmes, que non seulement cela était trop vrai, mais trop connu et trop notoire. Qu'il ne dirait donc rien au roi de faux ni de nouveau en lui parlant comme je lui proposais, que conséquemment rien à cet égard ne devait l'arrêter. Que pour ce qui était de craindre de faire du mal à Madame d'Argenton, cette appréhension me paraissait absurde, que séparée d'avec lui et hors de Paris, qui était une seule et même chose, je ne voyais point ce qui pouvait arriver de fâcheux, qu'il pourvoirait sans doute à l'aisance de sa vie, outre ce qu'il avait déjà donné, que la cessation du commerce ne devait pas emporter celle de la protection, que le roi même avait été trop amoureux en sa vie pour n'être pas susceptible de la délicatesse et du devoir de se procéder. Qu'agir contre Madame d'Argenton en quelque sorte que ce fût, quoique séparé de son neveu, serait agir contre son neveu même et le frétrir cruellement, chose bien éloignée d'un rapprochement tendre et sincère qui était l'unique but que je me proposais. Qu'ainsi, il était clair que Madame d'Argenton n'avait rien à craindre, mais beaucoup mieux à espérer de la façon que j'avais proposée de recourir et de parler au roi, et qu'à l'égard de l'avantage qu'en retirait M. le duc d'Orléans, je n'en voulais d'autre juge que lui-même. Quant à l'affaire d'Espagne, que n'étant point de nature à pouvoir en reparler, il ne pouvait avec aucune bienséance dire au roi que Madame d'Argenton y avait ou n'y avait pas de part, que son juste et bienséant embarras en parlant au roi sur sa rupture ne lui permettait aucun détail. Qu'ainsi lui dire que sa maîtresse était cause de ceci et non de cela était chose ridicule et absurde, et l'ayant en effet, et de son propre aveu entraîné dans tout, excepté dans l'affaire d'Espagne, rien n'était plus utile, plus dans l'ordre, plus à propos, plus hors de toute atteinte de la moindre blessure de délicatesse et d'honneur que de parler au roi dans le vague dont je lui avais donné l'idée. Que si après, le roi joignait dans la sienne l'affaire d'Espagne à tout le reste, comme lui n'exprimait rien, et moins celle-là qu'une autre, comme il n'en pouvait, en quoi que ce pût être, arriver ni pis ni mieux à Madame d'Argenton, je ne voyais pas quel scrupule il s'en pouvait faire, ni pourquoi se priver ainsi d'un aussi grand bien que celui de se raccommoder si parfaitement avec le roi, auquel il ne pouvait s'empêcher de parler, comme je le pensais, pour recourir à lui avec succès certain et infiniment nécessaire, puisque les choses en étaient venues à ce point que c'était très peu que rompre pour rompre si, au plaisir de père, il n'ajoutait au roi l'aise de père de famille, d'oncle et surtout ceux de roi et de maître. Nous disputâmes assez longtemps là-dessus, et besoin ne témoignant pas de rendre entièrement, je conclus que je ne voyais pas quel scrupule pouvait rester, Madame d'Argenton à couvert, le mensonge banni, la vérité conservée, et tout avantage procuré, sans que la ténuité du scrupule pût se fonder sur aucune base perceptible dans la manière pleinement vraie, juste et honnête de se le procurer. Monsieur le duc d'Orléans soutenait toujours qu'il y avait là un tour de courtisan, et la droiture du maréchal, une fois hérissée, avait peine à s'accoutumer à ma manière de penser, sur quoi je m'avisais de leur demander ce qui les choquait. Beson voulut répondre, mais ne pouvant trouver sous sa main rien pour ainsi dire susceptible d'être empoigné, et y sentant au contraire sûreté pour Madame d'Argenton, vérité effective dans la chose, l'éblouissement emportant l'affaire d'Espagne, il cessa d'être peiné. Et depuis, monsieur le duc d'Orléans est convenu plus d'une fois avec moi qu'il n'avait disputé que pour prolonger la dispute et détourner cependant l'objet véritable de la conversation. Il cessa alors de contester, sans s'avouer rendu, et après avoir déclaré que cette contestation ne serait bonne que lorsqu'il se serait déterminé sur le grand point de rompre, ce qu'il n'était du tout point, il retomba dans un silence très profond que le maréchal n'interrompit pas et que je ne voulus pas troubler si tôt après une reprise de conversation si vive. Cependant, je m'aperçus bientôt que, non seulement M. le duc d'Orléans souffrait beaucoup en se taisant, mais qu'il était agité entre parler et ne parler pas. Il lui échappa ensuite des commencements de paroles qu'un effort retenait à demi prononcés, ce qui, s'étant répété quelquefois, m'enhardit à lui dire que je voyais bien qu'il voulait se soulager avec nous de quelque peine qui l'agitait, que je ne le pressais point de le faire, mais que je le suppliais de considérer qu'il était entre ses deux plus assurés serviteurs et dans un état qui ne demandait point de contrainte. Il ne répondit rien, et je me tus. Après un assez long et vif débat intérieur, il nous dit, comme tout à coup, qu'après avoir bien balancé, il se sentait pressé d'une chose qui lui faisait d'une peine infinie à nous dire, mais que la situation en laquelle il se trouvait en lui-même et l'entière confiance qu'il avait en nous le forçaient à la dire. Que parmi tout ce qui le combattait contre ce que nous essayions de lui persuader de faire, une des choses qui le peinait le plus était son domestique et la vie en laquelle il retombait en rompant. Je repris la parole. Je lui dis que j'avais commencé à sentir ce qui l'agitait entre parler et se taire avant qu'il eût lâché ce mot, que par respect, je n'avais osé l'en laisser apercevoir, mais que j'étais ravi qu'il eût enfin pris le parti de l'ouverture avec de si véritables et si sincères serviteurs. Puis, entrant en matière, je lui dis que je ne m'étonnais pas qu'il eût peine à s'engager dans une sorte de vie qui lui était tout à fait inconnue et dont il n'avait jamais eu le temps de connaître les douceurs. À ce mot qu'il releva avec une sorte de transport, il nous avoua un éloignement extrême pour sa femme, et tel qu'il ne se sentait pas capable de vaincre jamais. Je regardai le maréchal, et je dis, en lui adressant la parole, que c'était là la chose à laquelle je m'étais le plus attendu et qui aussi m'embarrassait le moins, qu'il était tout naturel que M. le duc d'Orléans, marié contre son gré, excité au dégoût de son mariage par ceux-là même dont l'autorité l'en devait défendre, outre celle du roi, ou combattre ce dégoût après l'avoir mis en état de le regarder comme le plus grand malheur de sa vie, tomber ensuite à de mauvaises mains qui, par intérêt ou par flatterie, l'avaient non seulement soutenu dans ce dégoût, mais persuadé que le marquis était une partie principale de sa dignité et de sa gloire, plongé ensuite en des dérèglements passagers mais continuels, enseveli enfin dans une passion qui occupait tout son cœur et tout son temps, qu'il était, dis-je, non seulement naturel, mais impossible que, tout ayant concouru à former et à fortifier un éloignement si dangereux, il ne fût devenu tel que M. le duc d'Orléans nous le représentait, mais que c'était au bon esprit, aux sages réflexions, aux considérations générales et particulières, à détruire l'ouvrage pernicieux des passions, des mauvais conseils, du temps si longuement écoulé dans l'habitude de ses sentiments, pour en prendre d'autres, tout contraires, et dans lesquels seul il trouverait son repos et sa véritable gloire avec la grandeur solide de sa famille particulière. Beson appuya infiniment ses propos, loua Madame la Duchesse d'Orléans, et me donna lieu de la louer aussi. Mais ces louanges, bien loin de produire un bon effet, irritèrent M. le duc d'Orléans et le replongèrent dans son premier silence d'agitation et d'embarras. Enfin, il débonda. Et voici où la confidence et la confiance fut pleine, entière, nette, ne cachant ni chose ni nom. Et nous dit ce que nous eussions voulu ne point entendre, mais qu'il fut pourtant très heureux qu'il nous dit. Monsieur le maréchal se jeta sur des généralités très vraies, mais j'eus le bonheur de trouver, par des hasards à moi très particuliers, mais tout à fait naturels et justes, des raisons tellement pertinentes et des preuves si nettes et si exactes que monsieur le duc d'Orléans céda à leur force, ne put s'empêcher de demeurer convaincu et ne put rien opposer par diverses répliques, sinon que je ne lui dirai pas de mal de sa femme quand j'en saurai. Non, monsieur, lui répondis-je, le regardant avec feu. Très assurément, je ne vous en dirai pas, mais aussi ne vous parlerai-je pas aussi positivement que je fais si je n'étais non seulement très persuadé, mais si j'avais aucun soupçon qu'elle s'en pût prendre d'elle, puisque vous en dire du mal, quelque vrai qu'il fût, serait une noirceur affreuse, et que s'efforcer de vous persuader en sa faveur est un mensonge, et par des faits décisifs et positifs qui seraient contre la vérité et contre ma conscience, serait une autre sorte de trahison. Si je voyais donc que vous eussiez malheureusement raison, content de ne pas convenir, je me tirerais d'embarras comme je pourrais par des verbiages généraux qui ne manquent jamais, mais je me garderais bien d'avancer des choses et des preuves positives qui répugneraient également à la vérité, à l'honneur et à la conscience qui chez moi vont et doivent aller avant tout. » Plein de ces pensées, je retournais chez M. le duc d'Orléans un peu avant 3 heures. Je le trouvais dans son entresol et déjà besoin avec lui. Il me vit arriver avec plaisir et me fit asseoir entre lui et le maréchal, que je complimentais sur sa diligence, et lui demandai sur quoi ils en étaient. « Toujours sur la même chose, me dit-il, et dans le même combat. » Je répondis que si était-il enfin temps de mettre fin à ses incertitudes et de prendre une bonne résolution pour sortir au plus fâcheux et dangereux état où Prince de Rang se fût jamais trouvé, et tout de suite je mis sur le tapis son peu de ressources, puisque celle-là même qui avait le mieux fait pour lui dans son affaire d'Espagne lui manquait depuis dans tout le reste de propos délibérés. Je m'étendis beaucoup là-dessus, sans que M. le duc d'Orléans m'interrompît que par des soupirs et des changements de posture dans sa chaise, qu'un homme fort en malaise avec lui-même. Vers ce temps-là, entra mademoiselle, suivie de Madame de Marais, sa gouvernante. Elle embrassa M. son père, qui l'aimait avec passion dès sa plus tendre enfance, et se mit à causer avec lui, et moi avec Madame de Marais. Elle était ma parente et fort bonne amie. Je lui dis tout bas d'emmener sa princesse parce qu'elle interrompait quelque chose qui voulait être suivi. Elle n'en eut pas la peine parce qu'un moment après, M. le duc d'Orléans les renvoya et aussitôt nous nous rassîmes. Cette visite me donna occasion de prendre de nouvelles armes et de me servir de la tendresse paternelle. Je savais par M. le duc d'Orléans qu'il y avait près de 2 ans que le roi de lui-même lui avait parlé de mademoiselle comme d'un parti qui pouvait être convenable pour M. le duc de Berry. Je demandai à M. le duc d'Orléans ce qu'il prétendait en faire, qu'ayant plus de 14 ans et la figure d'une jeunesse plus avancée, il me semblait qu'elle devait commencer à lui peser, qu'après les grandes espérances que le roi lui avait fait naître si naturellement pour un établissement si solide pour sa grandeur personnelle et celle de monsieur son fils, si agréable encore en ne la séparant de lui par un mariage étranger, tout autre genre que monsieur le duc de Berry lui devait paraître une chute, qu'il s'était mis en état néanmoins de faire évanouir toutes ses pensées et que je ne voyais aucun moyen de la faire renaître que la rupture et la manière de la faire que je lui avais proposée. M. le duc d'Orléans ne se récria plus sur la manière, mais seulement sur la rupture, et avec plus d'angoisse que de sécheresse, ce qui me donna courage d'aller plus avant. Je lui demandai donc si, se résolvant enfin d'y venir, il n'en parlerait pas à Madame de Maintenon. Il demeura quelques moments sans me répondre, puis dit que, s'il y venait, il faudrait bien qu'il lui en parlât. Aussi, j'insistai à ce qu'il s'en expliquât avec elle de la même manière que je lui avais conseillé de faire avec le roi, mais de s'étendre davantage avec elle d'un air de confiance sur sa douleur de l'état auquel il se sentait avec le roi, de répandre en tendresse et en reconnaissance pour lui, bien inculqué que cette tendresse seule lui arrachait ce sacrifice et l'espérance de rentrer par un effort si douloureux dans les bonnes grâces et sa familiarité première, appuyé que nulle autre considération n'eût pu l'obtenir sur lui. Il entra très bien dans ce raisonnement, et M. le maréchal aussi. J'en pris occasion de m'étendre sur l'inutilité de la vie suivie et d'une conduite unie et sage avec le roi et avec elle, que leur goût était constant pour les prosélytes et les pénitents du monde, que tout était plein de gens irréprochables, mais dans les choses de legré, qui n'avaient jamais pu rien faire, et de fortunes agréables, de plusieurs solides, de quelques-unes même éclatantes, de gens qu'ils avaient haïs et méprisés, de gens perdus par tout ce qu'une conduite peut entasser de plus misérable et de plus honteux, du retour desquels leur amour-propre s'était trouvé flatté qu'ils avaient récompensé en ces personnes, qu'une dévotion ignorante y aidait encore par la considération mal appliquée que la miséricorde de Dieu sur les pécheurs qui les rendait dupes de l'effort de l'ambition, qui souvent prenait la place de l'amour, des plaisirs, et changeait le libertinage en une assiduité dont la constance eût langui sans être regardée et dont le retour était au contraire presque toujours salarié. Qu'égaré au point où il était, cette imitation lui restait pour toute ressource. Que je le conjurais de songer avec fruit qu'il ne lui restait plus un seul instant à perdre pour y recourir, qui tous lui étaient infiniment précieux. Le maréchal appuya de son côté, mais je vis distinctement et avec frayeur que M. le duc d'Orléans était moins réduit que lorsque nous l'avions quitté le matin et qu'il avait funestement repris haleine pendant notre courte absence. Je le pressai donc et je lui demandai s'il commencerait par le roi ou par Madame de Maintenon. Il me répondit, avec une fermeté que je n'avais point sentie dans les deux précédentes conversations, qu'il n'était point question encore qu'il pût prendre un parti, mais que, s'il avait à le prendre, il parlerait d'abord à Madame de Maintenon. Que cela lui marquerait plus d'amitié et de confiance et l'engagerait à mieux faire valoir la chose au roi que s'il ne lui en parlait qu'après. Qu'il pourrait même, en lui confiant sa résolution, recevoir d'elle des conseils utiles pour la manière de s'en déclarer au roi, et plus encore d'appui, parce qu'engagée par la confiance et par la déférence à suivre ses avis, elle se ferait un honneur de les lui rendre plus avantageux et de former pour la suite une sorte de liaison avec lui dont il pourrait tirer beaucoup d'avantages. Nous pesâmes ces raisons, Beson et moi, et nous les trouvâmes très sages et très judicieuses. Mais en même temps, un raisonnement si libre dans un homme que nous avions laissé en si peu d'état me fit peur. Je compris fort clairement que M. le duc d'Orléans avait repris des forces contre nous pendant l'intervalle de notre absence, et je sentis par là que si nous n'emportions la rupture à ce coup comme d'assaut, il ne la fallait plus espérer, après le long espace de la nuit jusqu'au lendemain, que la conversation se pourrait reprendre. Que peut-être nous échapperait-il tout à fait, ou par s'être déterminé pendant la nuit à n'écouter que l'amour, et nous fermerait la bouche quand, au matin, nous penserions retourner la charge, ou que, prenant peut-être un parti plus assuré, nous le trouverions aller à Paris quand nous viendrons le chercher. Cette réflexion, qui me frappa tout à coup, et que je pesais de toute l'application de mon esprit, tandis que Beson discourait sur les raisons de parler à Madame de Maintenon avant de parler au roi, me détermina à ramasser toutes mes forces pour embler d'effort une sanglante victoire sans plus rien ménager. Je laissai donc parler Beson tant qu'il voulut, et après qu'il eut fini, je demeurai dans un profond silence. Je rêvais cependant à ce que j'avais à dire, et la vérité est que j'en tremblais. Enfin, après un assez long temps que personne ne disait mot, je regardai tristement M. le duc d'Orléans, et je lui dis que, quelque peine qu'il ressentît du combat auquel nous l'avions engagé, je le suppliai de se bien fortement persuader que le nôtre était pour le moins aussi terrible. Que pour lui, il n'avait à combattre que l'amour, et que je convenais que cela était effroyable pour un homme aussi passionnément épris, mais qu'il ne nous refusa pas de réfléchir sur l'horrible peine qu'un ami véritable ressentait d'affliger un ami, de lui flétrir le cœur aux parties les plus sensibles, de lui dire des choses dures, fâcheuses, poignantes, de le déchirer, de le désespérer par une violence extrême et par des raisons de cette violence plus solidement et presque aussi sensiblement cruelle que la violence même. Combien plus quand cela se passait non plus entre amis égaux, mais entre gens aussi disproportionnés que nous l'étions de lui, aussi accoutumés par là au respect, à la complaisance, à toute déférence, à éviter avec le soin le plus exact jusqu'aux moindres choses qui pourraient, non pas formellement déplaire, mais plaire moins, surtout quand à ce profond respect du rang en était joint un autre bien plus intime dans l'âme et qui retenait infiniment plus que l'autre parce qu'il naissait de l'estime et de l'admiration de l'esprit, des lumières et de plusieurs vertus de cet ami qui augmentait l'honneur, la douceur, la reconnaissance d'une telle amitié. Que de là il devait mesurer la grandeur de notre combat et sur la grandeur de notre combat, la grandeur de la nécessité de ce qui nous avait fait résoudre à l'entreprendre et qui nous la faisait soutenir avec une sorte d'horreur qui ne se pouvait rendre. Qu'au nom de Dieu, il daignât y réfléchir et ne nous accablait point du poids immense de la douleur d'avoir si longuement, si cruellement combattu en vain. qu'il se pourrait souvenir qu'à deux fois différentes, je m'étais hasardé de lui jeter quelques propos sur cette rupture avec grande circonspection et presque en monosyllabes, qu'une troisième fois, j'avais pris confiance de pousser jusqu'à une seconde période et que, sur l'air qu'il prit tant soit peu moins ouvert, je m'étais arrêté tout court et j'avais changé de discours. Qu'il devait donc comparer ses extrêmes réserves d'alors avec tout l'opposé de maintenant et en conclure qu'il n'y avait donc plus que la plus âpre et la plus pressante nécessité qui m'avait forcé et soutenu. Qu'encore une fois, il y fit des réflexions salutaires, qu'il ne s'abandonna pas lui-même dans un abîme sans fond pour n'avoir pas la force de s'en tirer et nous au désespoir de l'y voir périr sans aucune espérance de ressources. Je me tournai ensuite au maréchal pour l'exhorter à presser, à ne laisser pas sur ma seule insuffisance le poids d'une affaire si capitale. Je me tus après pour reprendre haleine et courage et pour observer dans la réponse et dans la contenance du prince ce qu'opérerait un discours si touchant. Beson, ému par ce que je venais de dire, voulut parler aussi dans le même sens. Il fit des représentations pleines de justesse, mais trop mesurées pour l'état dans lequel nous nous trouvions. L'esprit de M. le duc d'Orléans était désormais convaincu, ou hors de moyen de l'être, après tout ce que nous lui avons démontré. Il n'était plus question que de déterminer une volonté arrêtée par une passion qui le tyrannisait, et cette opération violente avait un extrême besoin de force et de violence. Il échappa à M. le duc d'Orléans de témoigner, en s'adressant à Beson, que s'il se séparait de sa maîtresse, ce ne serait qu'à condition de la voir et de l'y préparer lui-même, et là-dessus Beson s'écria qu'avec cette résolution, non seulement il ne romprait pas présentement avec elle, mais qu'il ne la quitterait jamais. Que s'il avait tant de peine à prendre en son absence un parti salutaire et forcé, que deviendraient les réflexions en sa présence ? Que l'amour les détruirait en un instant, que ses efforts ne lui serviraient que de trophée, et à la douceur de s'y livrer sans réserve et de tout nouveau. Qu'il était absurde d'imaginer qu'il pût résister aux larmes et aux caresses, que la fin de tout ceci serait un nouveau bail plus honteux, plus durable, plus dangereux encore que celui qu'il s'agissait de rompre, également cruel pour ses amis et funeste pour lui. Un grand silence succéda à ces vives reprises. Elles firent sur M. le duc une impression dont je ne tardais pas à m'apercevoir, à un abattement ou à une sorte d'amertume que j'avais regrettée en lui, tandis que j'avais ouï raisonner et librement surparlé à Mme de Maintenon avant d'aller au roi. Je remarquai même un espèce de déconcertement, d'où je compris que c'était l'instant favorable de profiter de son trouble par les plus grands efforts. Aussi, me ranimant moi-même, je rompis le silence, après l'avoir laissé durer quelque temps, par des louanges que je crus nécessaires pour préparer la voie à ce que j'avais dessein de leur faire succéder, et lorsque je crus qu'il était temps d'amener cet autre langage, je lui dis qu'il était également étrange et déplorable qu'il laissât perdre de si grands talents, et par le seul homme du sang royal, qui, par ses conseils, s'il se mettait à portée d'être consulté, et par sa capacité à la guerre, s'il se remettait en état d'en faire usage, pouvait sauver le royaume de ses pères, voulu s'ensevelir tout vivant dans un désordre et dans une obscurité qui seul enfoncerait le plus simple particulier dans des ténèbres infâmes et sans retour, combien plus un prince de son rang, qui, outre les débauches, avait tant d'autres malheurs à réparer. Que je ne pouvais plus me retenir, enfin, de lui faire faire attention à quelques considérations que je n'avais pu jusque-là faire sortir de moi-même, mais que, l'aimant et l'estimant au point que je faisais, je me croirais aussi trop coupable si, après les avoir ménagés jusqu'au bout, et ne voyant point le fruit de tout ce que je lui avais dit et de tout ce que je lui avais tu, je ne lui disais tout enfin, au péril de lui déplaire et de lui paraître trop hardi, puisque je ne pourrais jamais espérer de repos avec moi-même si je me laissais ce reproche de ne lui avoir pas tout dit, et par ce faux respect de l'avoir abandonné dans un abîme, d'où la juste opinion que j'avais de lui me devait persuader que je l'eusse enfin retiré, si je n'avais eu peur pour lui de ses ménagements perfides. Après cette préface, je me levai brusquement en pied, et me tournant avec action vers M. le duc d'Orléans, je lui dis que je ne pouvais donc plus lui taire la juste indignation du public, qui, après avoir conçu de lui les plus hautes espérances et avoir eu pour lui la plus grande et la plus profonde indulgence, tournait les unes vers le mépris, l'autre en une sorte de rage qui produisait le déchaînement universel et inouï contre lui, aussi vif dans les plus libertins que dans les hommes dont les mœurs étaient les plus austères. qu'il y avait temps et manière pour tout, que son libertinage avait été supporté par égard pour son âge et pour ce qu'il fallait d'ailleurs, mais que le monte, là enfin, de voir que ce libertinage, devenu abandon depuis tant d'années, s'approfondissait de plus en plus, que ni l'âge, ni l'esprit, ni les lumières, ni les grands emplois n'avaient pu le changer, qu'il était devenu non seulement concubinage, mais ménage public, personne ne pouvait plus souffrir dans un petit-fils de France de 35 ans ce que le magistrat et la police eût châtié il y a longtemps dans quiconque n'eût pas été d'un rang, à couvert de ces sortes de voies de remettre les gens dans l'ordre, au moins hors d'état d'insulter à tout un royaume par le scandale affreux de sa vie. Qu'à une conduite si honteusement suivie, il avait ajouté des imprudences de nature si délicate, si jalouse, tellement unie à la licence effrénée de sa vie, que le comble de toute horreur en était retombé sur lui, et retombé de façon si naturelle que, quelque innocent qu'il fût du fond de ses imprudences, il était pourtant vrai qu'il fallait en être bien au fait et bien porté à l'en croire pour n'en concevoir pas l'opinion la plus sinistre, qui, à commencer par le roi, par monseigneur, par la personne royale et les autres les plus principales, avait trouvé entrée dans l'esprit de tout le monde et avait produit une alignation générale qui tenait de la fureur. Que le public, outré de s'être trompé dans les espérances qu'il avait conçues de lui, aigri d'ailleurs de ne trouver personne en qui les mettre en un temps si déplorable, était par là également porté à ne garder plus aucune sorte de mesure pour lui s'il continuait par l'opiniâtreté de son débordement à n'en mériter nul et à revenir aussi à lui avec rapidité s'il le voyait capable de retour en rompant de si honteux liens, en avouant tacitement ses fautes par un digne changement de conduite et de vie et en méritant par un attachement sincère et assidu à ce devoir. Que de cette sorte, et non autrement, il se laverait des souillures qu'il avait défigurées, que le courage qu'il aurait de le faire surprendrait l'acclamation publique qui relèverait avec joie le mérite de sa nouvelle vie par celle de voir renaître ses espérances. Tandis que je parlais de la sorte, j'étais infiniment attentif à percer M. le duc d'Orléans de mes regards, et je m'aperçus que mon impétuosité faisait sur lui une impression profonde. Je m'arrêtai néanmoins pour donner lieu à Beson de m'aider à le pousser, et je me rassis comme un homme qui a tout dit. Ce n'était pourtant pas mon dessein d'en demeurer là, et ce le fut bien moins encore lorsque je sentis la faiblesse du maréchal, qui, me regardant de la tête aux pieds, n'avait de réflexion que la peur qu'il prenait de la force de mon discours, et de courage que pour une approbation tremblante en monosyllabes. L'extrême crainte que je lui remarquais me força de supplier au défaut de son secours. Je demandai à M. le duc d'Orléans, avec un air d'angoisse, s'il ne prendrait point parti et s'il ne voulait point envoyer demander à Mme Maintenon audience pour le lendemain matin. Il tarda un peu à me répondre, puis me dit qu'il ne pouvait encore s'y résoudre. Ce mot « encore » me donna une grande espérance. Je me tournai au maréchal, je le pressai de presser à son tour pour ne pas me rendre odieux à la fin par une importunité trop vive. Il parla, mais avec faiblesse, et conclut promptement qu'il n'y avait rien ajouté à mes propos, soit pour leur force, leur justesse ou leur vérité, et dans le désordre où je vis bien que l'effroi l'avait jeté, je trouvais qu'il avait beaucoup fait de m'avoir approuvé, quoique si laconiquement, d'une manière si précise. J'insistai donc encore sur le message, et sentant le prince mollir, éployé sous le fait de ma véhémence, je crus à devoir pousser, et me levant de nouveau, je lui dis qu'il fallait qu'il me permît encore ce mot. Qu'il avait vu de tout temps, et qu'il voyait encore le brillant, le lustre, la splendeur qui accompagnait les ministres, les généraux de l'armée, ceux pour qui le roi montrait une estime et une amitié solide par sa confiance et par ses bienfaits. Que leur état radieux était l'objet de l'envie des uns, de l'émulation des autres, des désirs de tous. Que sa naissance grossissait naturellement sa cour de ces grands personnages et de leur cour particulière. Que la faveur et la confiance du roi l'avaient mis souvent au-dessus d'eux en crédit et toujours en autorité, et avaient fait de ses distributeurs, si souvent arrogants, des grâces, ses courtisans et ses complaisants avec respect, crainte et soumission. Que d'autre part, ils voyaient aussi des seigneurs que leur naissance, leur famille, leurs établissements, leur dignité portaient si naturellement aux distinctions de leur état, avilis par leur débauche, inconnus à la cour par leur obscurité, abandonnés à leur propre honte et à leur misère, rejetés des plus chétives compagnies, objets de la censure et du mépris du roi et du public, réduits à ce degré bizarre d'être au-dessous des coups qu'on daignait de frapper sur eux. Je lui nommai quelques-uns de ceux-là qu'il voyait, malgré tant d'avantages, ensevelis dans la fange. Et d'après ces peintures, que je fis les plus vives que je pus, je demandai à M. le duc d'Orléans auquel des premiers ou des seconds il aimait mieux ressembler. J'ajoutai qu'il ne fallait pas se tromper par une illusion grossière, que plus sa proximité du trône l'élevait avec éclat et lui donnait de facilité de joindre à cette naturelle splendeur la splendeur empruntée par les autres de l'estime, de la faveur, de la confiance du maître commun de tous, des grands emplois, du crédit, de l'autorité, plus aussi le dénuement de ces choses et le dénuement produit par le dérèglement et la saleté de sa vie le ferait retomber plus bas que ses seigneurs périssent aux ruines de leur obscurité débordée dans un mépris d'autant plus cruellement profond qu'il serait inouï et justement invoqué. Que c'était désormais à lui, dont les deux mains touchaient à ces deux différents états, d'en choisir un pour toute sa vie, puisque, après avoir tant perdu d'années, et nouvellement depuis l'affaire d'Espagne, meule nouvelle qu'il avait nouvellement suraccablée, un dernier affaissement aurait scellé la pierre du sépulcre où il se serait trouvé enfermé tout vivant, duquel, après, nul secours humain, ni sien ni de personne, ne le pourrait tirer. Je terminai un discours si nerveux par des excuses et des louanges et par la considération du prodigieux dommage de la perte civile d'un prince de son rang, de son âge et de ses talents. Fort peu après, comme j'y étais seul encore, Monsieur le duc d'Orléans entra, qui venait de chez madame, et qui tout de suite m'emmena dans son arrière-cabinet. Il se mit le dos à la cheminée sans proférer un mot, comme un homme hors de soi. Après l'avoir considéré un moment, je crus qu'il valait mieux l'importuner par des questions que de le laisser ainsi à lui-même dans des moments critiques qui avaient si grand besoin de soutien, puisque 2 heures après arrivait le moment qu'il devait parler au roi pour se séparer de sa maîtresse. Je lui demandai donc s'il était bien content de Madame de Maintenon, si elle était entrée véritablement dans ce qu'il lui avait dit. Il me répondit un oui si bref que je me hâtai de lui demander s'il n'était pas bien résolu d'aller chez le roi un peu avant son dîner. Il m'effraya beaucoup par sa réponse. Il me dit de ce même ton qu'il n'irait pas. « Comment, monsieur ? » m'écriai-je d'un air ferme. « Vous n'irez pas ?»« Eh non, monsieur, répliqua-t-il avec un soupir effroyable. « Tout est fait. »« Tout est fait, » repris-je vivement. « Comment l'entendez-vous ? Tout est fait pour avoir parlé à madame de Maintenon ?»« Eh non, » dit-il, « j'ai parlé au roi. »« Au roi, » m'écriai-je, « et vous lui avez dit ce que vous vouliez dire tantôt ?»« Oui, » répondit-il, « je lui ai tout dit. » « Ah, monsieur, » m'écriai-je encore avec transport, « cela est fait, que je vous aime, » et me jetant à lui, « que je suis aise de vous savoir enfin délivré. Et comment avez-vous fait cela ?»« Je me suis craint moi-même, » répondit-il. « J'ai été si violemment agité depuis que j'ai parlé à madame de Maintenon que j'ai eu peur de me commettre à tout le temps de la matinée et que mon parti enfin bien pris, je me suis résolu de me hâter d'achever. Je suis entré dans le cabinet du roi après la messe. » Alors, vaincu par sa douleur, sa voix s'étouffa et il éclata en soupirs, en sanglots et en larmes. Je me retirai dans un coin. Un moment après, Beson entra. Le spectacle et le profond silence l'étonnèrent. Il baissa les yeux et n'avança que peu. Je lui fis des signes qu'il ne comprit point, puis, se remettant un peu, me demanda des yeux ce que ce pouvait être. Enfin, nous nous approchâmes doucement l'un de l'autre et je lui dis que c'en était fait, que Monsieur le duc d'Orléans avait vaincu, qu'il avait parlé au roi. Le maréchal fut si étourdi de surprise et de joie qu'il en demeura quelques moments interdit et immobile. Puis, se jetant à M. le duc d'Orléans, il le remercia, le félicita et se mit à pleurer de joie. Cependant, nous nous tûmes et laissâmes un assez long moment de silence au trouble de M. le duc d'Orléans, qui s'alla jeter dans un fauteuil et qui, tantôt stupide, tantôt cruellement agité, ne s'exprimait que par un silence farouche ou par un torrent de soupirs, de sanglots et de larmes, tandis qu'agités nous-mêmes et attendris d'un état si violent, nous contenions notre joie et nous osions nous parler, et à peine pouvions-nous nous persuader que cette rupture si salutaire fût achevée. L'heure du dîner du roi arrivait. Je sortis de chez la duchesse de Villeroy pour y aller et pour la laisser habiller, pour aller chez madame la duchesse d'Orléans, où elle avait impatience de s'épanouir avec elle à leur aise. Comme je l'ai dit, un vendredi 3 janvier et le 4e que je me présentais devant le roi dans l'attente de l'audience qu'il avait promis à Maréchal de me donner, et je commençais à être en peine de ce qu'elle ne venait point. Je trouvai le dîner avancé, je me mis le dos au balustre et vers la fin du fruit, je m'avançai à un coin du fauteuil du roi et lui dis que je le suppliais de se vouloir bien souvenir qu'il m'avait fait espérer la grâce de m'entendre. Le roi se tournoit à moi et d'un air honnête me répondit « Quand vous voudrez, je le pourrai bien à cette heure, mais j'ai des affaires, mais ce serait trop court. » Et un moment après, il se tourna encore et me dit « Mais demain matin, si vous voulez. » Je répondis que j'étais fait pour attendre ces moments et ces grâces, mais que j'aurais l'honneur de me présenter le lendemain matin devant lui. Cette façon de me répondre me sembla de bon augure, un air affable et point importuné, une envie de m'écouter à loisir. Maréchal le chancelier et Madame de Saint-Simon en furent persuadés comme moi. Le lendemain, samedi 4 janvier, le dernier des quatre, si principaux pour moi par leur suite qui commencèrent cette année 1710, j'allais à l'issue du lever du roi et le vis passer de son prie-Dieu dans son cabinet sans qu'il me dît rien. C'était une heure de cour qui ne m'était pas ordinaire. Je me contentais de le voir aller et revenir de la messe parce que, depuis une longue attaque de goutte, il s'habillait presque entièrement sur son lit où le service ne laissait guère de place. L'ordre donné, les entrées du cabinet sortaient, tout le monde allait causer dans la galerie jusqu'à la messe. Il ne restait guère dans sa chambre que le capitaine des gardes en quartier, qu'un garçon bleu avertissait quand le roi allait sortir par la porte de son cabinet, qui donne dans la galerie pour aller à la messe, lequel entrait alors dans le cabinet pour le suivre. Je demeurais, après l'ordre donné et le monde écoulé, seul avec le capitaine des gardes dans la chambre. C'était Harcourt qui fut assez étonné de me voir là, persévérant, et qui me demanda ce que j'y faisais. Comme il allait me voir appelé dans le cabinet, je ne fis point de difficulté de lui dire que j'avais un mot à dire au roi et je croyais qu'il me ferait entrer dans son cabinet avant la messe. Le père Tellier, dont le vrai travail se faisait le vendredi, était demeuré avec le roi. Il sortit bientôt après et presque aussitôt Nier, premier valet de chambre en quartier, sortit du cabinet, chercha ses yeux et me dit que le roi me demandait. J'entrai aussitôt dans le cabinet. J'y trouvai le roi seul et assis sur le bas bout de la table du conseil, qui était sa façon de faire quand il voulait parler à quelqu'un à son aise et à loisir. Je le remerciai, et l'abordant de la grâce qu'il voulait bien me faire, et je prolongeai un peu mon compliment pour observer mieux son air et son attention, qui me parurent l'un sévère, l'autre entière. De là, sans qu'il me répondît un mot, j'entrai en matière. Je lui dis que je n'avais pu vivre davantage dans sa disgrâce, terme que j'évitais toujours par quelques circonlocutions pour ne pas effaroucher, mais dont je me servirai ici pour abréger, sans me hasarder de chercher à apprendre par où j'étais tombé, qu'il me demanderait peut-être par quoi j'avais jugé du changement de ses bontés pour moi, que je répondrais qu'ayant été 4 ans durant de tout le voyage de Marly, la privation m'en avait paru une marque qui m'avait été très sensible, et par la disgrâce et par la privation de ces temps longs de l'honneur que lui faisait ma cour. Le roi, qui jusque-là n'avait rien dit, me répondit d'un air haut et engorgé que cela ne faisait rien et ne marquait rien de sa part. Quoique je n'eusse pas su à quoi m'en tenir sur cette privation, l'air et le ton de la réponse m'eût bien appris qu'elle n'était pas sincère, mais il l'a fallu prendre pour ce qu'il me l'a donné. Aussi je lui dis que ce qu'il me faisait l'honneur de me dire me donnait un grand soulagement, mais que puisqu'il m'accordait l'honneur de m'écouter, je le suppliais de trouver bon que je me déchargeasse le cœur en sa présence, ce fut mon terme, et que je lui dise diverses choses qui me peinaient infiniment et dont je savais qu'on m'avait rendu auprès de lui de fort mauvais offices depuis que des bruits que mon âge et mon insuffisance m'empêchaient de croire fondés, mais qui avaient fort couru, qu'il avait jeté les yeux sur moi pour l'ambassade de Rome, l'envie et la jalousie, c'était tellement allumé contre moi, comme contre un homme qui pouvait devenir quelque chose, et qu'il fallait arrêter de bonne heure, que depuis ce temps-là, je n'avais pu dire ni rien faire d'innocent, que jusqu'à mon silence même ne l'avait pas été, et que M. Dantin n'avait cessé de m'attaquer. « Dantin ?» interrompit le roi, mais d'un air plus doux. « Jamais il m'a donné votre nom ?» Je répondis que ce témoignage me faisait un plaisir sensible, mais que Dantin m'avait si attentivement poursuivi dans le monde en toute occasion que je n'avais pas pu ne pas craindre ses mauvais offices auprès de lui. À cet endroit, le roi, qui avait déjà commencé à se rasséréner, prenant un visage encore plus ouvert et montrant une sorte de bonté et presque de satisfaction à m'entendre, me coupa la parole comme je commençais un autre discours par ces mots « Il y a encore un autre homme ». Et me dit « Mais aussi, monsieur, c'est que vous parlez et que vous blâmez. Voilà ce qui fait qu'on parle contre vous. » Je répondis que j'avais grand soin de ne parler mal de personne, que pour de sa majesté, j'aimerais mieux être mort en le regardant avec feu entre ses deux yeux, qu'à l'égard des autres, encore que je me mesurasse beaucoup, il était difficile que des occasions ne donnassent pas lieu à parler quelquefois un peu naturellement. Mais, me dit le roi, vous parlez surtout sur les affaires, je dis sur ces méchantes affaires avec aigreur. Alors à mon tour, j'interrompis le roi, observant qu'il me parlait de plus en plus avec bonté. Je lui dis que des affaires, j'en parlais ordinairement fort peu et avec de grandes mesures, mais qu'il était vrai que, piqué quelquefois par de fâcheux succès, il m'échappait d'abondance de cœur des raisonnements et des blâmes. Qu'il m'était arrivé une aventure qui, ayant fait un grand bruit contre mon attente, m'avait aussi fait le plus de mal. Que j'allais l'en rendre juge afin de lui en demander un très humble pardon si elle lui avait déplu, ou que, s'il en jugeait plus favorablement, il vit que je n'étais pas coupable. Je savais, à n'en pas douter, qu'on avait fait un prodigieux et pernicieux usage de mon pari de Lille. J'avais résolu de le conter au roi, et j'en saisis l'occasion qu'il me donna belle, mais avec la légèreté qu'il convenait pour tous les acteurs avec lui. Je continuai donc à lui dire que, lors du siège de Lille, touché de l'importance de sa conservation, au désespoir de voir avec quelle diligence les ennemis s'y fortifiaient, avec quelle lenteur son armée se mettait en mouvement, après 3 courriers dépêchés coup sur coup, portant ordre de marcher au secours, impatienté d'entendre continuellement assurer une levée de siège si glorieuse et si nécessaire, laquelle je voyais impossible par le temps que ses lenteurs donnaient aux ennemis de se mettre tout à fait à couvert de cette crainte, il m'avait échappé, dans le dépit d'une de ces disputes, de parier 4 pistoles que Lille ne serait pas secourue et qu'il serait pris. Mais, dit le roi, si vous n'avez parlé et parié que par intérêt à la chose, et par dépit de voir qu'elle ne réussirait pas, il n'a pas de mal, et au contraire, ce n'est que bien. Mais quel est cet autre homme dont vous vouliez me parler ? Je lui dis que c'était monsieur le duc, sur lequel il garda le silence, et ne dit point, comme il avait fait sur Dantin, qu'il ne lui avait point parlé de moi. Je lui racontai, en peu de mots, autant que je pus, sans rien en mettre d'utile, le fait et le procédé de madame de Lussan, et comme sur le pari de Lille, j'avais soigneusement évité de lui nommer les noms de Chamillard, de Vendôme et de monsieur le duc de Bourgogne, j'évitais ici, avec le même soin, de lui nommer madame la duchesse sa fille, pour en mieux tomber sur monsieur le duc. Je dis donc au roi que je n'entrais point dans le fond de l'affaire de madame de Lussan, pour ne l'en pas importuner, mais que monsieur le chancelier et tout le conseil, monsieur le premier président et tout le parlement où il avait été porté, en avaient été indignés jusqu'à en avoir fait de fâcheuses réprimandes. Que cette femme, m'ayant attaqué partout et par toutes sortes de mensonges, j'avais été contraint de me défendre par des vérités, poignantes à la vérité, mais justes et nécessaires. Qu'avant de les publier, j'avais supplié monsieur le prince d'en entendre la lecture, que je la lui avais faite et qu'il avait trouvé très bon que je les publiasse, que je n'avais jamais pu approcher de madame la princesse, dit de monsieur le duc, qu'il était étrange qu'il s'intéressât plus dans l'affaire de la dame d'honneur de madame la princesse que monsieur le prince lui-même, lequel avait fort gourmandé madame de Lussan là-dessus. Qu'enfin sa majesté trouvait bon que ses sujets eussent tous les jours des procès contre elle, et qu'il serait étrange qu'on osât se défendre des mensonges de madame de Lussan, dont la place serait plus que la première du royaume, si elle lui donnait le droit de plaider et de mentir sans réplique. J'ajoutais que monsieur le duc ne me l'avait jamais pardonné depuis, et qu'il n'y avait point d'occasion où je n'en m'en fusse aperçu, et que c'était une chose horrible que moi, absent naturellement et à la ferté, comme j'étais accoutumé à Pâques, et sans savoir monsieur le prince en état de mourir, monsieur le duc eut dit à sa majesté, sur l'affaire des manteaux, que c'était dommage que je n'y fusse, et que je me donnerais bien du mouvement. Le roi, qui m'avait laissé tout dire, et sur qui je remarquai que j'avais fait impression, me répondit, avec l'air et la façon d'un homme qui veut instruire, qu'aussi je passais pour être vif sur les rangs, que je m'y étais mêlé de beaucoup de choses, que je poussais les autres et me mettais à leur tête. Je répondis qu'à la vérité, cela m'était arrivé quelquefois, et qu'en cela même, je n'avais cru rien faire qui lui pût déplaire, mais que je le suppliais de se souvenir que, depuis l'affaire de la quête dont je lui avais rendu compte il y avait 4 ans, n'était entré en aucune sorte d'affaire. Je lui remis en 2 mots le fait de celle-là et celle de la princesse d'Harcourt, et sur ce que je lui dis que j'avais lieu de croire qu'il en avait été content, il en convint, et m'en dit des choses de lui-même qui me montrèrent qu'il s'en souvenait parfaitement. Sur quoi je ne manquais pas de lui dire que la maison de Lorraine ne l'avait pas oublié et n'avait cessé de me le témoigner depuis. Revenant tout de suite d'où je m'étais écarté, j'ajoutais que c'était bien assez de ne m'être mêlé de rien depuis 4 ans pour que monsieur le duc, à qui je n'avais jamais rien fait, ne fît pas souvenir de moi dans un temps d'absence où je ne pensais à rien moins. L'air de familiarité que j'avais usurpé dans la parenthèse des Lorrains et en retombant sur Monsieur le Duc, et celui d'attention, d'ouverture et de bonté non ennuyée que je vis dans le roi, me fit ajouter que j'avais beau n'entrer en rien, puisque, dans ma nière absence dont j'arrivais, il m'avait été mandé de beaucoup d'endroits qu'on avait extrêmement parlé de moi sur ce qu'il est arrivé entre les carrosses de Mesdames de Mantoue et de Montbazon, et que j'osais lui demander ce que je pouvais faire pour éviter des méchancetés et des propos qui se tenaient gratuitement, moi absent depuis longtemps et dans la parfaite ignorance de l'aventure de ces dames. Cela vous fait voir, me répondit le roi en prenant un vrai air de père, sur quel pied vous êtes dans le monde, et il faut que vous conveniez que cette réputation, vous la méritiez un peu. Si vous n'aviez jamais eu d'affaires de rang, au moins que vous n'eussiez pas paru si vif sur celles qui sont arrivées, et sur les rangs même, on n'aurait point cela à dire. Cela doit vous montrer aussi combien vous devez éviter tout cela pour laisser tomber ce qu'on en peut dire et faire tomber cette réputation par une conduite sage là-dessus et suivie pour ne point donner prise sur vous. Je répondis que c'était aussi ce que j'avais continuellement fait depuis 4 ans, comme je venais d'avoir l'honneur de le lui dire, et ce que je ferais continuellement à l'avenir, mais qu'au moins le suppliais-je de voir combien peu de part j'avais eu en ces dernières choses, desquelles néanmoins je ne me trouvais pas quitte à meilleur marché. Que j'avais une telle crainte de me trouver en tracasserie et en discussion, surtout devant lui, qu'il fallait donc que je lui dise maintenant la véritable raison qui m'avait fait rompre le voyage de Guyenne, qu'il m'avait permis de faire. Que cette raison était celle des usurpations étranges du maréchal de Montrevel sur mon gouvernement, qui était telle que je n'y pouvais aller qu'elle ne fût décidée. Que M. le maréchal de Boufflay, et qui avait commandé en chef en Guyenne, à qui j'avais exposé mes raisons, avait jugé ma faveur et cru que M. de Montrevel l'en voulait bien croire. Mais que, ce dernier s'étant opiniâtré à vouloir que Sa Majesté décidât, j'avais mieux aimé perdre mes affaires, qui avaient grand besoin de ma présence, et laisser encore le maréchal de Montrevel usurper tout ce que bon lui semblait et semblerait, que d'en importuner Sa Majesté, tant j'étais éloigné de toute querelle et surtout de l'en fatiguer. Le roi goûta tellement ce propos qu'il l'interrompit plusieurs fois par des monosyllabes de louange pour ne pas troubler le fil de mon discours, à la fin duquel il me loua davantage et m'aplondit plus à son aise, sans pour autant entrer sur ses différends de Guyenne, tant il laborait toute discussion et aimait mieux que tout s'usurpât et se confondît, souvent même au préjudice connu de ses affaires, que d'ouïr parler de cette manière et surtout de décision. Je lui parlai aussi de la longue absence que j'avais faite de douleur de me croire mal avec lui, d'où je pris occasion de me répandre, moins en respect qu'en choses affectueuses, sur mon attachement à sa personne et mon désir de lui plaire en tout, que je poussais avec une sorte de familiarité et d'épanchement, parce que je sentis à son air, à ses discours et à son ton et à ses manières que je m'en étais mis à porter. Aussi furent-ils reçus avec une ouverture qui me surprit et qui ne me laissa pas douter que je ne me fusse remis parfaitement auprès de lui. Je le suppliai même de daigner me faire avertir s'il lui revenait quelque chose de moi qui puisse lui déplaire, qu'il en saurait aussitôt la vérité, ou pour pardonner à mon ignorance ou mon instruction, ou pour voir que je n'étais point en faute. Comme il vit qu'il n'y avait plus de point à traiter, il se leva de dessus la table. Alors je le suppliai de se souvenir de moi pour un logement, dans le désir que j'avais de continuer à lui faire une cour assidue. Il me répondit qu'il n'en avait point de vacant, et avec une demi-révérence riante et gracieuse, s'achemina vers ses autres cabinets. Et moi, après une profonde révérence, je sortis en même temps, par où j'étais entré, après plus d'une demi-heure d'audience, la plus favorable, et fort au-delà de ce que j'avais pu espérer.